Vous pouvez vous asseoir. J'ai attendu longtemps pour revenir ici à Phoenix. Je suis très heureux d'être ici cet après-midi. Je suis à Phoenix, il y a quelque chose qui me fait... Quand je suis à Phoenix, il y a quelque chose qui me fait toujours sentir que je suis assis parmi les gens qui sont mes amis, qui m'aiment. Et c'est une grande prière de combattants qui viennent d'ici pour prier pour moi. Depuis des années, je me souviens toujours de la première réunion que j'ai eue ici avec frère Atlow, frère Garcia et le ministre ici dans cette ville. Comme le Seigneur avait béni, vraiment béni, quand j'étais au début de mes premières réunions. Depuis, Phoenix a tenu bon. Il y a quelque chose dans mon cœur. C'est difficile à expliquer. Lorsque j'étais un jeune garçon, j'ai toujours voulu venir à Phoenix. Je lisais toujours à propos du désert. J'avais écrit un petit poème sur ce sujet quand j'étais un jeune garçon sur l'Arizona. Je suis ici si heureux d'être un natif maintenant. J'ai à peu près un an et peut-être un peu plus, mais on n'en trouve pas beaucoup plus vieux que ça. Tout ce que je sais, je dis, êtes-vous d'ici? Et je suppose qu'il faudra que j'aille dans les réserves d'Apache quelque part pour trouver un vrai natif. Et quelqu'un dit, il n'y a pas longtemps, frère Branham, comment aimes-tu l'Arizona? J'ai dit, eh bien, ça a été une de mes plus grandes attentes de toute ma vie de vivre en Arizona. Et Dieu me l'a accordé. Et nous sommes ici juste avant la convention des hommes d'affaires qui est devenu une activité annuelle pour nous. Et cet après-midi, alors que nous nous sommes réunis ici pour une réunion avant la convention qui commence jeudi soir, je crois. Cela a été mon privilège au cours des dernières années de venir et d'avoir ces petites réunions avant que la vraie réunion ne commence ou la convention ne commence plutôt. Frère William est un très cher ami, lui et Sœur William. J'ai certainement une place spéciale dans mon cœur pour ces gens-là. Ils m'invitent constamment à revenir et nous sommes donc heureux de répondre à cette invitation cet après-midi. Également sur l'estrade, frère Fuller, frère Jewel Rose et frère Tony Stromy de Tucson, frère Borders, notre directeur de campagne, un précieux bon vieux frère Hagenbright. Nous avons été ensemble dans de nombreux durs combats de l'autre côté de la rivière. J'espère habiter avec lui de l'autre côté de la grande rivière un jour. J'ai essayé, mais je n'arrive pas à me rappeler le nom du frère. Quel est ton nom, frère? Boule. Frère Boule, je reconnais son visage. N'est-il pas aussi celui qui interprète parfois pour le sourd? Nous sommes si heureux de vous avoir tous ici. J'ai regardé juste ici en bas devant et je vois quelques-uns de mes amis qui viennent de l'Arkansas. Ici, quand j'étais ici la première fois, je vous ai dit que partout où j'allais, je trouvais quelqu'un de l'Arkansas. Je suis sûr que si j'arrive un jour au ciel, je trouverai de l'Arkansas parce qu'ils ont certainement été des gens fidèles et loyaux. Maintenant, d'habitude, je parle longtemps, mais j'ai fait de mon mieux de préparer mes écritures et mes notes afin de ne pas parler trop longtemps. Je vais prier pour le malade pendant que je suis à Phoenix. Maintenant, le message que le Seigneur m'a assigné, c'est parfois, vous savez, que ces choses deviennent assez délicates. Et ça a été comme ça dans tous les âges. Et j'ai fait de mon mieux pour rester avec cela. C'est quelque chose. Si je ne parlais pas de ce que Dieu m'a dit, et si ce n'était pas de Dieu, alors ce ne serait pas dans la parole. Mais si c'est dans la parole et une promesse pour cette heure-ci, alors je sens que j'ai fait ce qui est juste parce que j'essaie seulement de tenir ce qu'il a promis pour cette heure-ci. Souvent, quand vous avez un malentendu avec quelqu'un sur sa théologie, il se fâche après vous maintenant. Mais ça ne devait pas être ainsi. Je trouve des amis à moi qui sont tous de différentes églises dénominationnelles, ainsi de suite, et je ne me fâche jamais avec ces frères. Oh là là, Je vais dans les églises partout, ils me laissent venir parler. On ne devrait pas se fâcher sur les petites choses. Vous savez, si je disais quelque chose que ce qu'il y a dans mon cœur que je sais, si je disais quelque chose que ce qu'il y a dans mon cœur, je serais un hypocrite. Loin de là, je devrais peut-être les rencontrer un jour en tant que pécheur, mais je ne veux certainement pas les rencontrer en tant qu'hypocrite. Mais je veux être fidèle. Si je viens ici, bien, je veux juste omettre ceci parce que les autres croient ceci. Alors, quel genre de personne suis-je? Vous ne pourriez pas avoir confiance en moi et je ne pourrais pas avoir confiance en Dieu ou en moi, même si je fais des compromis si facilement. N'importe qui doit avoir quelque chose dont il est sûr de cela, et c'est là que vous pouvez fonder votre foi. C'est quand vous êtes sûr, c'est qu'il y a ce que vous soyez sûr. S'il y a question quelque part, vous devez être sûr. Maintenant, il y a probablement Billy a distribué des cartes. Quelque part là, tout au long, je vais en appeler quelques pour la ligne de prière au bout d'un certain temps. Et si votre cœur n'est pas appelé, si elle est appelée, plutôt que si vous n'êtes pas sûr que Dieu, si vous n'êtes pas sûr que Dieu est guérisseur, et le guérisseur, alors qu'il va vous guérir, ça ne vous servira à rien de venir parce que vous ne serez pas guéri. Et si vous avez une question, vous dites, bien sûr, s'il y a quelque chose dans ma vie, je devrais vraiment arranger ça. Allez régler ça premièrement, et ensuite venez et revenez dans la ligne de prière. Car la guérison, c'est le pain des enfants. Nous en sommes conscients, c'est de l'expiation. L'expiation est premièrement appliquée à nos âmes. Et la guérison a toujours été précurseur de tout le message. Cela aussi est un moyen de rassembler les gens. Beaucoup de gens vont parrainer une réunion de guérison. Beaucoup viendront à une réunion de guérison ou à un festival de chant. Mais quand il s'agit d'une œuvre, d'une pauvre âme perdue qui a besoin d'être sauvée, il n'y a pas beaucoup de gens intéressés par cela. Mais c'est la chose principale. La guérison divine et le festival de chant, ainsi de suite, et c'est juste, comme frère Bozov avait l'habitude de dire, c'est la pas sur la maison, et vous montrez la pas au poisson, pas la maison. C'est ce qu'il faut faire pour amener les gens à écouter un peu, jusqu'à ce que vous puissiez vraiment leur présenter votre message. Dieu a fait cela dans tous les âges, à travers tous les âges. Il y a toujours une campagne de guérison. C'est une campagne de guérison, tandis que cette campagne sera toujours suivie d'un message. Un signe n'est jamais donné juste pour donner un signe. C'est précurseur d'un message. Je crois que c'est la même chose il y a 17 ans ou 18 ans maintenant que le Seigneur m'a envoyé pour commencer à prier pour les malades. Cela a fait un grand réveil parmi les gens. Beaucoup de grands serviteurs de Dieu sont sortis des campagnes de guérison. Mais la campagne de guérison en elle-même, si vous restez dans la même vieille tendance que vous avez toujours été, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette campagne de guérison n'a pas été envoyée par Dieu. Elle doit attirer l'attention premièrement, envoyer l'attention, puis vient le message. Jésus, lorsqu'il sortit, guérissait les malades, ainsi de suite, il fit un grand prophète pour eux. Mais quand il commença à leur dire la vérité de l'Évangile, qui il était, pourquoi il est venu, alors... Il n'était plus populaire après cela. C'est ainsi que les choses se sont toujours passées dans tous les âges. Ce sera toujours comme ça. Maintenant, nous sommes ici cet après-midi, demain après-midi, dans ce même auditorium. Tout commence à 7 heures, n'est-ce pas, frère? 7h30, demain après-midi ou soir, ou puis mardi soir. Je pense que mercredi soir aussi. À Ramada Inn, mercredi, et puis jeudi, c'est vrai. C'est le début de la convention. Si le Seigneur le veut, je vais être ici pendant tout ce temps. Je suis ici, votre frère, une aide dans le royaume de Dieu, pour vous donner toute l'aide que je peux. Pour répondre à vos questions, je ne pourrai peut-être pas le faire, mais dans la prière, nous comprendrons probablement si nous prions à ce sujet et allons vers Dieu à ce sujet, et non pas en tirer nos propres opinions. Si vous êtes malade, j'aimerais pouvoir vous guérir, mais aucun homme ne peut le faire, cela. C'est déjà fait. La guérison réside en vous. C'est votre foi dans les œuvres achevées que Dieu a fait au calvaire par Jésus-Christ. Et en dehors de cela, il n'y a pas de guérison. Et en dehors de cela, il n'y a pas de salut. Pas d'église, pas d'animationnel, pas de rituel. Rien n'apporte le salut. Jésus-Christ. Il était blessé pour nos iniquités, notre agression par ses maîtrises. Nous avons été guéris. Il est blessé pour nos transgressions, notre agression. Excusez-moi. Par ses maîtrises, nous avons été guéris. Et tout, c'est tout au temps passé, nous avons été guéris. Maintenant, Je n'ai que quelques instants pour vous parler cet après-midi, probablement 20, 30 minutes. Ensuite, nous allons faire une ligne de prière chaque jour. Comme d'habitude, de nouvelles personnes viennent, alors de nouvelles cartes de prière seront. Mais nous ferons ce qui est notre pouvoir. S'il y a une personne qui prend l'avion qui est mourante et qui est ensuite d'urgence, qui est en une situation d'urgence, quelque chose comme ça, alors vous pourriez voir Frère Williams, Billy Paul et certains d'entre eux pour les mettre dans une pièce car ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas s'asseoir, ils sont mourants, ils doivent être soignés. Eh bien, mettez-les dans une pièce pour que je puisse aller les trouver tout de suite. Mais c'est beaucoup mieux si vous n'êtes pas dans cet état d'urgence, alors vous prenez votre juste credo, votre croyance, vous le mettez de côté quelque chose pour quelques minutes. Ensuite, que Dieu fasse, Dieu concerne ce qu'il a promis. Et cela fera grandir votre foi. Vous n'aurez même plus besoin d'être dans une épreuve de prière. Vous êtes déjà guéri si vous pouvez seulement le croire. Voyez, c'est le début de la chose. C'est de vous faire prendre conscience de ce qu'il. Il n'est pas nécessaire de vous avancer ici, de vous agenouiller, de prier jusqu'à ce que vous soyez sauvés. Vous êtes déjà sauvés, mais vous devez l'accepter. Vos prières ne le font pas. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Pas par la prière, mais car c'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est la même chose pour la guérison. Je suis sûr que nous le comprenons tous. S'il y a des étrangers parmi nous, nous voulons que vous sachiez que pour moi, pour ce groupe avec lequel je suis ici, les hommes d'affaires du plein évangile, nous ne représentons aucune organisation dénominationnelle. Nous ne représentons que les croyants chrétiens de toutes les dénominations. Tout le monde est le bienvenu. Nous sommes heureux de vous avoir. Vous dites, bien, j'appartiens à une certaine église. Pourrait-on prier pour moi? Vous n'avez même pas besoin d'appartenir à une église. Vous n'avez rien d'autre à faire que de venir ici et croire Dieu. C'est tout ce que vous avez à faire. Dieu s'occupe du reste. Maintenant, j'ai complètement usé une Bible depuis que j'ai commencé les campagnes de guérison, ou plutôt en priant pour les malades. À Houston, Texas, Frère Goodson et son groupe m'ont donné une Bible il y a des années, il y a environ 18 ans. J'ai porté cette Bible partout dans le monde jusqu'à ce qu'elle s'use complètement. Des pages en sortent. On vient de me donner une nouvelle Bible. Et la chose, je ne suis pas superstitieux. J'espère que vous ne pensez pas que je suis superstitieux. Quand cette Bible m'a été donnée, il y avait deux petits signets, deux petits borbans. C'est une Bible comme celle que j'avais. Le frère Kitson m'en a donné une qui était une Bible Scofield. Non pas parce que je suis d'accord avec M. Scofield dans ses notes. Maintenant, probablement que certains d'entre vous le sont, d'autres non. Mais je vous ai fait juste savoir que je ne prends pas la Bible Scofield parce que je crois cela. Parce qu'il a tellement mis de notes que je suis. C'était l'une de mes premières Bibles et j'ai appris à les lire comme ça. Et je garde simplement la même Bible. Si j'avais eu la Thompson Chain, cela aurait été mieux. Jusqu'à ce que j'aurais trouvé mon texte beaucoup plus. Répétez-moi l'aide des références de Thompson Chain. Mais quand j'ai ouvert la Bible, le premier petit ruban de la Bible, c'était très étrange l'endroit où il se trouvait. C'était quand Salomon consacrait le temple de Dieu à la gloire de. Et la gloire de Dieu était si grande, la gloire de Shekinah dans le bâtiment, au point où les sacrificateurs ne purent même pas y rester pour faire le service. Et l'autre ruban était posé là où Esdras revint, il consacra le temple. Et le troisième petit signet que ma femme avait pris, qu'elle avait mis dans la Bible sans le savoir, avait mon nom dessus, et ainsi de suite était marqué dans Marc 11, 22. Et là, simplement mis dans là où c'est là où il est dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et vous savez tout ce que cette écriture représente dans ma pensée, vous qui écoutez la bande. C'est là que ces écureuils ont été créés. C'est exactement ça. Ce qui était étrange, c'est que mon oiseau préféré, le rouge-gorge, est imprimé sur le signet, le petit oiseau à la poitrine. Rouge. La légende raconte qu'un jour, il était un oiseau brun, mais il y avait un homme mourant un jour sur une croix et il se sentait tellement désolé pour cet homme au point où il a essayé d'arracher lui-même le cou et il a eu le sang partout sur la petite poitrine. Et depuis la poitrine, il a la poitrine rouge. Mais aussi, c'est ainsi que je veux rencontré mon sauveur avec son sang sur moi, à l'intérieur de mon bâtiment. Et ma première réunion, le premier que j'ai vais prêcher ici, c'était à Phoenix. Et Phoenix, c'est quelque chose qui peut sortir de rien. C'est ce que Dieu fait. Il prend quelque chose qui n'est rien et il en fait quelque chose. Et cet après-midi, je vais parler de paradoxe et je vais lire un passage d'une écriture. Il y a quelques années, je prenais une Bible et je vous laissais me donner la Bible alors que je commençais mon ministère et que je prenais votre Bible. Beaucoup d'entre vous m'ont vu faire cela et je les tenais ouvert comme cela et je disais, Seigneur, où est mon message? Ça s'est ouvert à Josué au premier chapitre et n'importe quelle Bible que vous me remettiez. Jusqu'à ce qu'une nuit vint une vision que vous connaissez et je vis descendre du ciel cette Bible et qu'une main avec un corps sur le poignet comme celle-ci est descendue les 9 premières vers le verset de Josué. C'est là que je vais lire cet après-midi. Avant qu'on ouvre la Bible, inclinons la tête un instant. Maintenant, avec notre tête et notre cœur inclinés, pensons à ceci. Ne laissons pas ceci être seulement une réunion ordinaire. Nous en avons tout le temps, mais prions Dieu chacun de nous pour que celle-ci soit extraordinaire, de sorte que la présence de Dieu soit avec nous tout au long de la réunion. Père Céleste, nous sommes reconnaissants de ces grands et nobles privilèges d'être ici à Phoenix cet après-midi, réunis dans ce grand auditorium parmi ces gens. Et maintenant, nous sommes sur le point d'approcher la parole. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Et que cela arrive à nouveau. Seigneur, que la parole soit faite chair. Qu'elle se répande sur ton Église et ton peuple pour accomplir les promesses de cette heure-ci. Comme nous nous rendons compte que nous sommes à la fin du temps, le temps tire à sa fin, il se fond à l'éternité. Et nous sommes sur la côte ouest. Et comme la civilisation a voyagé de l'est à l'ouest, il en est de même pour l'Évangile qui a voyagé avec elle. Et maintenant, il n'y a aucun autre endroit où aller que de revenir dans l'est. C'est achevé. Et nous prions, Père Céleste, que ceci soit une grandeur pour nous. Que nous puissions sentir la présence du Saint-Esprit, l'écrivain de cette parole, de retour dans le bâtiment du tabernacle de la chair, de se manifester à nous dans le pardon de nos péchés, le pardon de notre iniquité, et avec l'assurance qu'il n'imputera pas les péchés aux croyants, avec l'assurance de cela, et aussi qu'il guérira nos infirmités et sortira les gens de fauteuils, du roulant et de béquilles, et donnera la vie à ceux qui sont aveugles et le prolongement des jours à ceux qui se meurent des maladies terribles comme le cancer et les tuberculoses avancées. Les maladies que nos médecins ne peuvent pas traiter, c'est au-delà de cela. Mais Dieu, tu vas au-delà de toute recherche scientifique. Tu vas au-delà de tout raisonnement. Accorde à tes serviteurs cet après-midi de parler et d'écouter ta parole sur le sujet, un paradoxe, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, dans la Bible, Josué, le premier chapitre, Josué, le dixième chapitre, le premier chapitre au premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate et tous les pays de Zétien jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse et je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Frère Branham lit maintenant Josué 10, 12, 14. Et alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres des justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, ne se hâta point de se coucher presque tout le jour. Et il n'y point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où le Seigneur écoutait la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de ses paroles. Maintenant, le sujet cet après-midi, un paradoxe. Maintenant, le mot paradoxe, comme je viens de le regarder et de m'assurer que j'avais raison, le mot paradoxe signifie, selon Webster, que c'est quelque chose d'incroyable, mais c'est vrai. Maintenant, nous avons entendu le vieil adage, la vérité est plus, comment disent-ils, la vérité est plus étrange que la fiction. Parce que quand une personne dit la vérité, c'est parfois très étrange. Je connais un ami à moi qui, dans le Colorado, il faisait un sondage, ils allaient faire un sondage sur le Wapipi. Il y avait 21 têtes de wapipi dans le troupeau. Et mon ami avait été à la chasse là-bas et alors les gardes-chasse sont arrivés et ils avaient payé très cher la conservation pour l'une de ces motoneiges afin de retourner faire cet enjeu sur le puits. Et il a dit, vous n'aurez pas dû dépenser tout cela. Je peux vous dire combien il y en a. Ils ont dit, combien il y en a? Il a dit, il y en a eu 19, il y en avait 21 et j'en ai tué deux d'entre eux. Et la garde chasse moqué, il a dit, ah, vous n'êtes pas autorisé qu'à tuer un. Et il a dit, oui, je sais que tu l'as fait. Eh bien, il a dit, c'est ce que j'ai fait. Il y en avait 21 et j'en ai tué deux. Et la garde chasse a simplement rié et parti. Est-ce qu'il y avait 19 papiers? Il s'est trouvé, mais il a dit, vous voyez, pasteur, dites simplement la vérité, les gens n'y croiront pas. Vous voyez, dites simplement la vérité. Alors, c'est certainement plus étrange que la fiction. Josué est un livre, en fait, c'est un livre de rédemption de l'Ancien Testament. Nous devrions considérer que Josué, c'est le livre de la rédemption. Parce que la rédemption comporte toutes deux étapes. La rédemption comporte deux étapes. C'est sortir d'eux et entrer dans. Il faut deux étapes pour faire la rédemption. Et sortir d'eux et entrer dans. Moïse représentait la loi qui les a fait sortir d'Égypte, tandis que Josué représentait la grâce qui les a fait entrer dans la terre promise. C'était d'une autre façon, c'est la loi et la grâce étaient deux étapes différentes du commandement de Dieu. Mais maintenant, Moïse, la loi, les a fait sortir et Josué les a fait entrer. Cela s'applique aussi à notre jour. Maintenant, cela représente tout comme ils étaient dans le voyage venant de l'Égypte pour entrer dans une terre promise. Nous sommes aussi sortis d'un monde d'Égypte, le chaos, en route vers une terre promise. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Jean 14, sortir de, entrer dans. C'est la loi qui nous amène à reconnaître que nous avons tort. Mais c'est la grâce qui nous pardonne. La loi n'a aucune espérance de rédemption parce que, et de l'achever, elle ne comporte aucune grâce parce que la loi indique seulement que vous êtes un pécheur. Mais la grâce vous dit comment sortir. La loi est le policier qui vous a mis en prison, mais la rédemption, c'est lui qui vient payer votre amende et sortir de, et entrer dans la grâce. L'Éphèse, maintenant, dans l'Ancien Testament, nous trouvons la même chose. Je pense que ce livre de Josué convient. Un mot qui convient pour cela serait le livre des Éphèses de l'Ancien Testament. Le livre des Éphésiens de l'Ancien Testament serait une bonne façon d'intituler ce livre de Josué. Parce que ceci convient certainement à ça. Maintenant, nous trouvons Josué représentant la grâce ou une propitiation qui ne pouvait pas exister tant que la loi existait. Pas plus qu'aucun message qui fait avancer les gens ne peut coïncider avec un message du passé. Il ne le fera pas. C'est là que vous avez le problème aujourd'hui. Jésus a dit, personne ne prend un habit neuf pour le mettre avec un vieil habit. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Ils périssent. Cela le fait éclater. Ils ne peuvent pas le supporter. Josué ne pouvait pas du tout entrer dans son ministère qu'après que Moïse soit parti. Ainsi, vous voyez le tout premier verset ici. Moïse, mon serviteur, est mort maintenant. Lève-toi et fais entrer ce peuple dans la terre promise. Moïse, représentant la loi, avait servi son temps. C'est la loi qui avait servi son temps. Ils avaient vraiment commencé avec la grâce. Pour commencer, avant d'avoir la loi, ils avaient la grâce. Pendant leur séjour en Égypte, sans loi, il n'y avait personne là-bas, il n'y avait que les prêtres. Mais ils n'avaient aucune loi. La loi n'avait pas encore été donnée. La grâce leur avait fourni un prophète. Et aussi la grâce avait fourni une expiation, l'agneau immolé. Nous allons y revenir cette semaine sur le sacrifice, le sang, et c'est là que se trouve votre guérison. Donc, l'expiation avait été faite avant qu'il y ait une loi. La grâce était avant la loi, pendant la loi et après la loi. Donc, il y avait Josué, représentant la grâce, qui accompagnait la loi, mais ne pouvait pas être appliquée tant que la loi était à sa place. Et ainsi en est-il du monde de l'Église en ces derniers jours. Cela a joué son rôle. Mais il vient un temps où cela doit cesser. Cela doit cesser. Il doit y avoir un Éphésien aussi pour ces voyages, tout comme il y en a eu pour les autres voyages. Il doit y avoir un Éphésien, un Éphésien pour ces voyages. Observez, en quoi cette loi ne pouvait jamais sauver un pécheur comme je l'ai indiqué, il ne pouvait pas. Et par conséquent, la terre promise représentait un jour de grâce, vous voyez, elle ne pouvait pas le faire entrer, prendre dans ses voyages. Et si vous avez remarqué, dans ses voyages, il y avait trois étapes dans leur voyage. La première était la préparation par la foi en Égypte sous l'agneau immolé. Puis ils traversèrent la mer Rouge dans le désert, une séparation qui représentait une autre étape du voyage. Parce que sous la préparation, quand ils se sont tous préparés, puis quand ils sont arrivés à la mer Rouge, il y avait un autre échec. Les gens ne croyaient pas. Après avoir vu beaucoup de choses que Dieu avait faites, ils ne croyaient toujours pas. Et Dieu ouvrit la mer Rouge et les fit traverser. Ce qui nous montre que tout le peuple a été baptisé par Moïse sous le nuée et la mer. Et maintenant, ils ont été baptisés, ils se sont repentis et ont été baptisés, sont sortis pour marcher dans une nouvelle vie, dans un nouveau pays, dans un nouveau voyage parmi les gens nouveaux avec la main de Dieu sur eux. Mais il est finalement arrivé au point où dans cette marche, il y avait qu'il ne soit plus satisfait dans cette marche de grâce. Il devait en venir à quelque chose qu'ils pouvaient faire eux-mêmes. Voilà ce que les gens pensent aujourd'hui de la guérison divine. Ou quelque chose, ou quelle autre œuvre de grâce de Dieu qu'il y a quelque chose que vous devez faire. Voyez, il n'y a rien que vous deviez faire sinon que de croire, juste croire en Dieu. Mais eux, s'ils avaient seulement continué, la promesse ne leur avait pas été faite en vertu de la loi. La promesse avait été faite avant la loi, sans aucune condition à cela. Je vous ai donné ce pays, allez-y. Mais avant d'atteindre cette promesse, ils ont décidé qu'ils devaient faire quelque chose eux-mêmes. Et cela, nous le voyons encore parmi les êtres humains. Nous sommes enclins à être ainsi. Nous devons faire quelque chose. Nous pensons que nous devons également avoir à y faire quelque chose. Vous avez effectivement quelque chose à y avoir. C'est d'abandonner votre propre volonté, vos propres idées à la volonté, à la pensée du Dieu Tout-Puissant. C'est tout. C'est tout ce qu'il en est. Juste prendre sa promesse sans rien penser d'autre. Marcher par elle et Dieu fait le reste. Ainsi, vous voulez une loi et Dieu vous donne toujours le désir de votre cœur. Il a promis, mais nous découvrons quand ils se sont détournés d'une chose que Dieu leur avait promise au commencement. Alors, ce fut une épine dans la chair jusqu'à ce que la loi soit enlevée, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne et soit crucifié pour enlever la loi. C'était une épine dans la chair. Et tout ce que vous essayez de faire par vous-même contribuera toujours à votre déshonneur. Cela finira à votre désavantage. Croyez simplement Dieu et le cas est réglé. C'est ce que Dieu a promis. Je suis le Seigneur ton Dieu qui guérit toutes tes maladies. Voyez? Et s'il y en a parmi vous qui sont malades, qu'ils appellent les anciens de l'Église, il a promis que les œuvres qu'il a faites seraient faites dans son Église. Pourquoi devons-nous accepter les organisations ainsi de suite qui enlèveront ça du livre? Voyez, cela devient une épine dans la chair. Et ici, à la fin des temps, nous retrouvons la chose encore face à face et chez les méthodistes, baptistes, puis c'est rien qui d'autre. Vous ne pouvez pas continuer ainsi. Vous devez revenir au plein évangile. Il a été fait pour l'homme complet, par un Dieu complet, qui s'est fait chair et a habité parmi nous. Et nous savons que ces choses sont vraies. Maintenant, si nous remarquons dans leur voyage dans le désert, c'est là qu'ils ont fait la plus grande erreur qu'Israël ait faite et jamais commise. C'était quand, dans Exode 19, ils ont accepté la loi au lieu de la grâce. Ils avaient la grâce, ils avaient un prophète, ils avaient un agneau immolé, ils avaient la rédemption, ils avaient traversé la mer Rouge. Ils avaient été guéris de leur maladie. Ils avaient eu l'eau du rocher, frappé. Ils avaient la main du ciel. Tout ce dont ils avaient besoin leur avait été fourni. Et pourtant, ils voulaient quelque chose d'autre. Maintenant, c'est un type parfois de nos Éphésiens aujourd'hui. Exactement. Nous sommes sortis de sous Luther. Nous sommes passés par la sanctification. Sous les méthodistes, nous sommes entrés dans la restauration sous la Pentecôte, exactement comme c'était pour le voyage dans le désert. Et quand Dieu nous a fait sortir, nous avons très bien fait. Mais qu'avons-nous fait? Nous avons voulu être comme les restes d'entre eux. Maintenant, nous découvrons que la grâce est la seule chose qui vous fait traverser jamais la loi. Josué est un type du ministère du dernier jour. Voyez-vous, maintenant, rappelez-vous que ces trois étapes du voie, de ces trois étapes du voie, tout ça a cessé. D'abord, la loi et tout devait cesser de sorte que Josué. Et Josué, c'est la même signification que Jésus, Jéhovah Sauveur, qui les a amenés du désert vers la terre promise. Or, je sais que beaucoup tiennent, et je ne vais pas être en désaccord avec les érudits, mais beaucoup soutiennent l'idée que la terre promise représente le ciel. Ça ne représente pas le ciel. Cela ne pourrait pas, car ils avaient la guerre, des troubles, des frustrations et tout le reste dans la terre promise. Cela ne représente pas la terre promise. Mais remarquez, juste avant qu'ils puissent entrer dans la terre promise, toutes les différences qui se sont élevées parmi eux, une des grandes choses était Coré. Ils ne voulaient pas de ce leadership d'un seul homme. Dathan et comment il se présentait devant Moïse et essayait de lui dire que le message devait vouloir dire ceci et ils ont mis une interprétation différente, leurs propres idées dans ce qu'il était et ils ont tous péri. Tous. Jésus a dit qu'il n'y avait aucun d'eux qui ne soit resté à part péri. Ils ont dit nos pères ont mangé dans la main du désert pendant 40 ans. Jean 6, ils sont tous morts. La mort signifie est tellement séparée. Ils sont tous morts. Et pourtant, ils aimaient entendre le message. Ils aimaient la manne qui tombait. Et pas une autre manne, la véritable manne. Mais quand arriva le moment où Balaam sortit avec sa fausse doctrine et dit, nous sommes tous un. Pourquoi ne pas simplement nous rassembler, laisser nos enfants se marier entre eux? Nous sommes une grande nation. Nous allons vous rendre grands avec nous. Maintenant, n'importe qui, avec une compréhension commune, peut avoir exactement la même chose. Même aujourd'hui, les mariés tous ensemble. Et ce fut un péché impardonnable. Cela ne l'a jamais été pardonné à Israël. Mais ensuite, Josué s'éleva pour l'exode. Maintenant, nous apprenons dans Apocalypse, le sixième chapitre, le sixième chapitre de sept sceaux. C'est supposé, le livre scellé avec sept mystères ou sept sceaux. En dernier jour, Apocalypse 10, dans Apocalypse 10, nous découvrons que Laodicée est le dernier messager du dernier âge et que durant le temps de sa prophétie, les sept sceaux seraient ouverts. Les sept mystères qui avaient été laissés en suspense. Dans chaque âge, il y en avait une partie laissée en suspense. Le réformateur n'avait pas le temps de s'en occuper au temps de Luther. Il a seulement prêché la justification par la foi. Après son départ, ils ont formé une organisation. Après cela, vint Wesley qui prêcha la sanctification. Et ensuite, les pentecôtistes. Mais on nous a promis, selon Apocalypse 10, Malachi 4, Luc 22, 17, ainsi de suite, qu'il doit y avoir un Éphésien, cela. C'est promis, mes amis. Il doit y avoir un Éphésien. Et que ces sept mystères de la parole de Dieu doivent être révélés. C'est dans l'âge de Laodicée que cela se produit. Je crois que nous y sommes. Je crois que nous sommes juste à l'ombre de la venue du Fils de Dieu. Et comme Josué, juste avant que l'Éphésien se lève, Jean-Baptiste s'est levé juste avant l'Éphésien suivant. Et il nous en est promis un autre Éphésien. C'est ce qui est prédit ici dans les Écritures. Je pense que nous vivons à nouveau dans les Éphésiens, encore. De nouveau, de retour à nouveau. Il nous est promis ce qui a été laissé en suspens pendant ces sept âges. Là, vous ne pouvez rien ajouter au livre ni rien en retrancher. Apocalypse 22, 18 le dit, si quelqu'un y ajoute un mot ou un retranchement, sa part du livre de vie sera retranchée. Ainsi, nous ne pouvons ni ajouter ni en retrancher. Par conséquent, nous savons que Luther ne pouvait pas rendre jusque Wesley, les autres réformateurs, Knox, ils n'ont pas eu qu'ils avaient été là. Mais là, dans les derniers jours, il nous a été donné de comprendre par la peau que nous allons le comprendre parce qu'il viendra un âge éphésien. Nous en sommes là. Bon, paradoxe. Je vais laisser ça attendre car il ne me reste plus qu'une dizaine de minutes pour nous, pour que nous aurons la ligne de prière. Paradoxe. Il y a des gens aujourd'hui qui ne croient pas au miracle. Ils disent qu'ils ne peuvent tout simplement pas croire qu'il existe une chose telle que le miracle à notre époque moderne. Eh bien, je ne veux rien dire de mal au sujet de cette personne, mais ils sont spirituellement insensibles. Ils sont spirituellement aveugles. Ils n'ont pas du tout de vision spirituelle ni de sentiments spirituels parce qu'aucun homme ne peut s'asseoir dans une foule de gens sur lesquels le Saint-Esprit tombe, peu importe s'il est absolument un péché ou elle. Là, ils vont forcément ressentir la présence de Dieu quand vous voyez la parole qu'il a promis s'accomplir. Alors, vous devriez être maudit. Quand vous le voyez de vos propres yeux arriver, alors vous devrez être aveugle spirituellement. Je ne parle pas physiquement, mais vous ne pouvez certainement pas être aveugle spirituellement et voir une vie physique de 20-20. Vous vous rappelez d'Élie à Dothan, lorsqu'il est sorti et a frappé toute l'armée d'aveuglement, la Bible dit qu'il a fait et il les mena droit dans une embuscade alors qu'il ne savait pas qui il était. Pourtant, il ressemblait exactement à ce à quoi il était censé. Et il est allé directement vers eux, mais ils étaient aveugles. Et vous pouvez vous tenir dans la présence de Dieu vivant. Et vous pouvez vous tenir sous l'onction d'esprit et le voir bouger et pourtant, ça ne vous touchera pas. Vous pouvez voir ce que Dieu a dit, vous être prêché parfaitement, ensuite être manifesté et vous n'entrez toujours pas à voir. Vous ne le croyez pas. Alors là, vous êtes hors de portée, vous êtes déjà mort, aveugle, parti, il était complètement. Le monde, je me demande si cette même personne qui ne croit pas au miracle, je me demande si les seules choses qui sont telles qui peuvent être prouvées scientifiquement. Je me demande si vous pourriez avoir un scientifique ou quelqu'un qui ne croit pas au miracle, m'expliquer comment ce monde se tient sur son orbite. Comment conserve-t-il son temps parfaitement autour de l'équateur et son déroulement est tout simplement parfait? Nous n'avons pas de la machinerie, de montres ou autres capables de garder le temps comme ça. Ça va varier de quelques minutes chaque fois. Mais ce soleil exactement à l'heure, des milliers d'années s'écoulent. Elle ne bouge jamais, certainement parfaitement. Comment la Lune, à des milliards de kilomètres de la Terre, toujours contrôler la marée? Dis-moi comment cela se passe dans la galaxie dans laquelle nous vivons. Comment la Lune pourrait-elle avoir un effet sur l'eau de la Terre? Scientifiquement, dites-moi comment ça se fait. Ça ne pourrait pas être fait, car il n'existe aucun moyen scientifique de le faire. Mais Dieu a placé la Lune pour veiller sur la mer. Et quand la Lune commence à tourner le dos, quand la Terre tourne, voici la marée montante. Mais quand il se réveille le lendemain matin, elle pointe derrière de ce côté-ci. Et la marée revient à sa place. C'est une sentinelle. Oh, vous dites ça, c'est juste sur le bord de la mer. Non, c'est ici en Arizona, dans l'état du Canada. Et vous creusez un trou dans le sol assez loin pour trouver de l'eau salée. Vous constatez que lorsque la marée descendra, de l'eau salée s'abaissera dans les tuyaux. Et lorsque la marée monte, elle se soulève également des centaines de kilomètres du bord de la mer. Nous pourrions prêcher un serment à ce sujet. Comment ce Dieu, peu importe, il est dans la gloire, mais ses ordres là-bas ont le même effet sur le monde entier et sur quiconque prend la promesse. Son ordre est donné, il a des lois de la nature. Et elles se porteront absolument comme telles de la Pentecôte ou de toute autre époque. Et chaque fois que Dieu a fait la promesse, il restera toujours avec cette promesse, peu importe à quelle époque se trouvent les gens. Combien de milliers d'années d'écart? Ces lois restent toujours les mêmes. Comme la semence tombe à la terre, elle pourrit et pour produire la vie de nouveau. On dirait que si elle devait jamais produire la vie, ce serait quand même quand elle est dans sa forme parfaite. Si la vie y était un jour, alors pourquoi ne serait-elle pas simplement sortie? Mettez-la dans la terre et la vie jaillit. Pourquoi tout ce qui est autour de cette vie, tout ce qui est autour de ces germes, qu'aucun homme ne ne peut trouver. Comment se fait-il que tout ce qui est autour de ces germes doit mourir afin qu'il puisse en surgir une nouvelle vie? Mais tout ce qui l'entoure doit également mourir et pourrir avant de produire la vie. Il en est de même avec un individu. Tant qu'il y a des insertions humaines, des idées humaines, alors là, le germe de vie de Dieu, le Saint-Esprit, ne peut pas fonctionner. Vous ne pouvez pas être guéri tant qu'il y a juste une fraction de quelque part que ce n'est pas encore pris. Il contient tous les éléments humains, toutes les idées scientifiques, tous les jours, des miracles sont passés. Dit-on, tout ce qui doit non seulement mourir, mais à partir de cela pousse le germe de la vie vers une nouvelle vie. C'est la seule façon que ça puisse grandir. C'est la raison pour laquelle nous n'obtenons pas ce que nous demandons. Nous essayons de prendre avec nous tellement de nos propres idées. C'est la raison pour laquelle l'Église luthérienne n'a pu avancer plus loin qu'elle n'avait. Les pentecôtistes et les autres, parce qu'ils injectent par un groupe de théologiens. Cela ne devait pas être comme ça, c'est pour un autre jour. Ceci était pour ça. Ça reste là. Il ne peut pas atteindre cette image parfaite de Christ jusqu'à ce que chaque parole de Dieu soit reçue en vous. Et ensuite, vous devenez cette parole. C'est comme la semence qui est tombée en terre. J'aimerais qu'ils expliquent Hébreux 11, 3. Pourtant, que je sache, le plus grand scientifique que nous n'ayons jamais été Einstein. Il n'y a pas si longtemps, à New York, j'écoutais ce qu'il avait dit. Et il parlait de la galaxie et de sa distance, et il a prouvé qu'il y avait une éternité. Comment un homme parcourant des millions de kilomètres à l'heure, ça lui prendrait autant, ou un million d'années à l'heure, ça lui prendrait tant d'années, 300 000 ou quelque chose comme cela, puis 300 000 pour revenir. Et puis, par cela, il prouvait d'une manière ou d'une autre que l'homme ne serait parti de la terre que depuis 50 ans, l'éternité. Et ça, ce n'est qu'une petite galaxie. Quand Dieu les a soufflés de la main, la Bible a dit, Einstein a finalement conclu avec ceci, il n'y a qu'une façon pour un homme d'expliquer l'origine de ce monde. Cela se trouve dans Hébreux 11, 3. Nous comprenons que les mondes ont été formés ensemble par la parole de Dieu. C'est tout à fait vrai. La science ne peut même pas y toucher. Et puis, vous dites que vous ne croyez pas au miracle. Comment pourriez-vous le faire? Comment un scientifique pourrait-il jamais expliquer la pluie au temps de Noé alors qu'il n'y avait jamais tombé une goutte de pluie sur la terre jusqu'à ce jour? Mais Noé a dit qu'il y aurait une pluie, et quand la pluie que Noé avait dit prédit arriverait, contrairement à toute la science, il n'y avait pas de nuages là, il n'y avait rien, il n'y a jamais eu de pluie, il pouvait y prouver qu'il n'y avait jamais. Et quand Dieu a ouvert le ciel, un robinet qui a tellement émergé de la terre, c'est un paradoxe. Et nous avons des preuves sur la terre aujourd'hui qu'il y a été ainsi. Dieu l'a fait. C'était un paradoxe. Et quand Dieu prit un homme nommé Abraham, âgé de 75 ans, et sa femme âgée de 65 ans, plusieurs années après l'âge d'être femme, dans la ménopause, et quand il prit cet homme et lui fit une promesse à 75 ans, à cette femme avec laquelle il était marié, la sienne, sa demi-sœur, il vivait avec elle depuis l'époque où elle n'était qu'une fille. Il s'était marié alors qu'elle était probablement une adolescente. Et elle avait maintenant 65 ans. Et il leur dit, tu auras un enfant par cette femme. Et Abraham a dit, je ne crois pas au paradoxe. Je ne peux. C'est si je vais prendre ma vie, je ne crois pas. Et puis Abraham a reçu le commandement de séparer de toute incrédulité et de marcher seul avec Dieu. Et au lieu de s'affaiblir, il devint plus fort. Et quand il était âgé de 100 ans et que sa fille âgée de 90 ans, le bébé est arrivé. Comme Abraham a-t-il amené son fils au loin de 3 jours de marche, probablement à une trentaine de kilomètres de toute civilisation, au sommet d'une montagne que le Seigneur lui avait montré allait offrir en sacrifice son fils, Isaac, comme sacrifice. Nous le savons, a ramassé le bouquet de bois qui est un type de Christ. Et c'est cette montagne devait offrir. Et quand il est... Quand la Bible a dit qu'il savait que Dieu ne pouvait pas faire une promesse en point de, au moins de pouvoir le compter, il le reçut comme quelqu'un d'entre les morts et il pouvait le réciter d'entre les morts. Et quand il fut prêt à obéir pleinement à Dieu, Dieu attrapa sa main et dit, « Retiens ta main, Abraham. » Et là, dans cet endroit, il y avait un bélier qui était accroché autour des vignes avec ses cornes. En haut de cette montagne où il y a des lions, des loups et des hyènes, des chacals et des grandes bêtes féroces qui mangent des moutons. Et puis il était tout là-haut au sommet de la montagne où il n'y a pas d'eau. Comment ce bélier est-il arrivé là-bas? Abraham avait ramassé des pierres tout autour pour construire un hôtel. Mais là, il y avait un bélier de toute façon. C'était un paradoxe. Et tout homme qui croit en Dieu et le prend au mot, peu importe la situation, Dieu accomplira un autre paradoxe pour garder sa parole. En effet, Abraham a appelé l'endroit Jéhovah Jireh. Le Seigneur s'est pourvu d'un sacrifice. Il peut toujours provoquer un paradoxe. Il peut le faire cet après-midi, si vous le prenez juste à sa parole. Daniel, dans une fosse remplie de lions affamés, comment se fait-il que cet homme, avec un groupe de lions affamés, soit resté dans la fosse avec eux toute la nuit, sans aucun mal? L'ange du Seigneur, invisible pour les autres, se tenait là. C'était un paradoxe. Quelque chose devait empêcher ce lion de l'atteindre. Quand les enfants hébreux sont entrés dans la fournaise ardente, c'était contre toute compréhension scientifique dans ce grand âge. Ce n'était pas scientifique qu'un homme soit jeté dans une fournaise qui était et que les hommes qui les ont poussés dedans ont péri. Ils sont tombés dans la fournaise et sont restés vivants là-bas un certain temps. Et la seule chose que cela a fait, ils furent libérés de leur chaîne. C'est un paradoxe. C'était inexplicable, déraisonnable, mais c'est pourtant la vérité. Voici Josué, nous parlons, comment est-ce que cet homme, juste un homme ordinaire, qui vient de faire face à un groupe de credos que des hommes avaient formés, ainsi que de lois et de cérémonies, sans rien qui disait quoi que ce soit en rapport à donner à l'homme. À l'homme de pouvoir d'arrêter ce. Mais ici, voici une commission de Dieu. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. C'est serré là. Et l'ennemi fut mis en route. Le soleil s'est couché. Si ce roi avait le temps de se réunir le lendemain, il perdrait certainement des hommes. Mais Josué savait qu'il avait besoin de la lumière du soleil. Et il leva les yeux vers le soleil et dit, reste immobile devant Gabon. Et la lune reste là-bas à Jalon. Et pendant toute la journée, toute la nuit, le soleil s'arrêtait, la lune restait là. Ça, c'est un paradoxe. Un homme qui marche dans la volonté de Dieu pouvait faire une chose pareille. Car il était dans un Éphésien avec l'Évangile. Bien sûr, c'est un paradoxe. Moïse, un bâton à la main pour aller délivrer les enfants d'Israël, était un paradoxe. Alors que l'Égypte disposait de toutes les armées de leurs hommes bien entraînés. C'était un paradoxe. La naissance d'un virginat était un paradoxe. Comment une vierge contre une toute intelligence scientifique, une femme qui ne connaissait aucun homme, pouvait-elle avoir un enfant? Et pas seulement un enfant, mais l'Emmanuel qui s'est avéré être exactement ce qu'il a dit qu'il serait. Comment se serait-il? Comment se pouvait-il arriver? C'était un paradoxe parce que Dieu avait parlé à son prophète des centaines d'années auparavant et que le prophète avait obéi à la parole de Dieu. Cette parole avait été prononcée et la parole a été faite chair et habitée parmi nous. Et nous croyons cela. C'est un paradoxe. Comment pouvait-il marcher sur l'eau? C'est un paradoxe. Nourrit 5000 personnes avec 2 poissons et 5 pains. Mais il a fait, il a multiplié non seulement du poisson, mais du poisson cuit. Pas seulement du pain, mais du pain cuit. Comment pouvait-il transformer l'eau et vin? Tout le paradoxe. Il a guéri les malades de la lèpre, ce dont ils n'ont encore rien trouvé jusqu'à ce jour. La science n'a rien pour soigner la lèpre. Mais Jésus l'a guéri avec sa parole. C'est un paradoxe. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole guérit toujours les malades. C'est un paradoxe, certainement. Il a ressuscité les morts après la vie mortelle était sortie d'eux. Lazare, le fils de la femme Anaïne et la fille de Jairus, il a ressuscité les morts avec sa parole, car il est la parole. Et puis, une autre grande chose, en terminant, pour prouver qu'il était le Messie, pour prouver ce qu'il était, il devait venir en ordre répondre par la grâce. Et la parole dit, quand il parla au prophète, « Le Seigneur, ton Dieu, suscitera un prophète comme moi. » Beaucoup d'hommes avaient été suscités, et pendant des centaines d'années, ils n'avaient pas eu de prophètes. Et ils avaient eu des prêtres et des grands hommes, comme nous disons l'histoire entre Malachie et Matthieu. 400 ans, il y a eu de grands hommes, mais il n'y avait pas de prophètes. Ensuite, lorsqu'il est venu sur la scène pour prouver qu'il était bien, cet Éphésien manifesté, Jean l'annonçait, mais Jésus était là. Il était la parole manifestée lui-même. Quand Pierre vint à lui un jour avec André, il s'appelait Simon. Et quand Jésus se tenait là, n'ayant jamais vu l'homme de sa vie, écoutez attentivement, quand il s'est tenu là et a regardé l'homme et a dit, « Ton nom est Simon et tu es le fils de Jonas. » C'était un paradoxe. Bien sûr. C'était certainement un paradoxe. Et quand Philippe s'était né là et entendu cela, il sut que de toute évidence, c'était le Messie. Il l'était certainement. Il y a cru, il n'était ni engourdi ni aveugle. Il a couru sur le visage, sur quelques kilomètres, et est allé chercher son ami appelé Nathanaël. Et quand il arriva, la foi de cet homme qui pouvait en amener un autre à la réunion pour voir. Quand il est arrivé devant Jésus, Jésus a dit, « Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. » Et cela a étonné l'homme. Il a dit, « D'où me connais-tu ?» Maintenant, regardez, il a dit, « D'où me connais-tu ?» Il a dit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. » Un paradoxe. Il avait besoin de passer par la Samarie. Et quand il passa à Samarie dans la ville de Sichar, il était assis là et attendait que ses disciples aillent acheter de la nourriture. Et remarquez, une femme s'est approchée du puits d'une mauvaise réputation et il lui dit, « Femme, va me chercher à boire, donne-moi à boire. » Elle dit, « Ce n'est pas habituel pour toi de demander ça. Je suis au Samaritain, tu es juif, nous n'avons pas de relation avec vous. » Il a dit, « Mais si tu savais qui tu es, à qui tu parles, observez ça partout. » Ne le manquez pas. Il a dit, comment peux-tu faire ceci? Moi, je suis une femme de Samarie. Tu es un juif. Nous n'avons pas de rapport ensemble. Il a dit, mais si tu savais à qui tu parles ou qui te parle, tu me demanderas à boire. Il continue jusqu'à ce qu'il trouve où était son problème. Il a dit, va chercher ton mari et viens ici. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Il a dit, c'est la vérité, tu n'as pas de mari car tu en as eu cinq et celui avec qui tu vis actuellement n'est pas ton mari. Par conséquent, tu as dit la vérité. Il a dit, monsieur, je vois que tu es un prophète. Il n'en avait pas vu depuis des centaines d'années. Il a dit, nous savons que le Messie vient quand il viendra, il nous dira ces choses. Il a dit, je le suis. C'était un paradoxe. Confirmé, ça s'est avéré être la vérité de l'évangile. Un évangile qui avait promis ceci. Et ici, c'est manifesté, confirmé, c'est que ça l'était. Maintenant, laissez-moi vous donner un grand paradoxe remarquable ici. Juste une minute. Dans Jean 14, 12, Jésus a promis que le croyant qui croyait en lui ferait les mêmes œuvres. Et c'est vrai? Dieu qui fait une loi ou une promesse doit tenir cette promesse pour être Dieu. Il la tient. de penser, de dire pourquoi c'est un paradoxe en lui-même. Car Dieu qui fait la promesse et qui ne peut pas rompre cette promesse pour donner cette promesse des choses qu'il a faites à son peuple et le suivre à travers les âges jusqu'à ce qu'il vienne. Aller par tout le monde et proclamer l'évangile à chaque créature. Chaque créature au monde, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ces signes accompagneront ceux qui auront crié. Il doit garder cette parole. Et parce qu'il a dit, c'est sorti de sa bouche, cela doit s'accomplir. Toute écriture doit s'accomplir. Donc c'est un paradoxe en soi d'entendre Jésus, le Fils de Dieu, faire une telle déclaration. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Maintenant, la Bible dit, dans Hébreux 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est un paradoxe, parce que cela doit être fait. Les cieux et la terre passeront, mais pas une parole que j'ai dite ne faillira jamais, a-t-il dit. Cela doit s'accomplir. Maintenant, mes amis, je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je crois qu'il est tout aussi capable cet après-midi dans ce bâtiment de manifester un paradoxe. Car, parce qu'il a promis que cela arriverait. Et combien a-t-il promis? Combien plus cela a conduit à la Bible dans cet âge où nous vivons? L'Éphésiens à nouveau, les âges de l'Église. Nous avons eu sept âges de l'Église. Il nous est promis qu'à l'âge de l'Église de Laodicée, il y aura un autre Éphésien. C'est vrai, et nous y sommes. Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ, qui a fait la promesse, comme je l'ai dit dans mon dernier message, maintenant, la contre s'est mise quand j'étais ici il y a quelques semaines. Chaque fois que vous bougez votre doigt, cela fait le tour du monde et ne s'arrête jamais. Chaque mouvement que vous faites, vous le faites. La télévision prouve que c'est ici, la quatrième dimension. Parce que la télévision ne fabrique pas cette image. Elle ne fait que transmettre cette onde dans un tube et vous voyez, c'est une image. La couleur, tout ce job en mouvement présent dans le monde passe droit ici maintenant. Dieu, laisse-moi être si juste. Laisse-moi être si mort à moi-même et à tout ce qui m'entoure, mais être conscient de la parole de Dieu qui est vivante parmi nous aujourd'hui. Prions. Seigneur Jésus, tu es un paradoxe. Quand Dieu s'est fait cette chair, je te prie, Père Céleste, que tu te manifestes cet après-midi pour nous. Prouver ici aujourd'hui, pas seulement nous prouver. Et je suppose que 90% voire plus de personnes aussi qui croient à chaque parole de cela. Mais pour que nous puissions te voir encore, nous laisser savoir que cette parole que tu as prononcée qui continue à aller toujours tout autour du monde, juste comme un enregistrement. Laisse-nous entrer dans cet enregistrement aujourd'hui, Seigneur. Laisse-nous entrer, non pas seulement entendre cela comme étant secondaire, de la bouche d'un homme, mais que cette bouche, cette personne et ces gens, tous ceux qui sont ici, deviennent ta parole. Nous sommes prêts à mourir, Seigneur, à nos propres idées, juste pour te voir, pour ta promesse, les choses que j'ai faites pour les faire. Je prie que tu accordes ceci au nom de Jésus. Amen. Juste avant d'appeler la ligne de prière, un jour, je prenais un peu de crème glacée avec un ami médecin. Il m'a dit, je vais te demander quelque chose, Billy. Il a dit, d'accord. Il dit, crois-tu? C'est là que j'ai eu cette pensée. Il a dit, crois-tu dans un paradoxe? J'ai dit, bien sûr. J'ai dit, je sais que oui. Il a dit, oui. Et il m'a parlé d'une certaine personne qui avait été guérie pour laquelle on avait prié, à qui il avait vendu des médicaments contre l'épilepsie pendant des années. Parfois, il avait 7 ou 8 crises par jour de médicaments. Il a dit, ils ne sont toujours jamais revenus. Et je le vois tout le temps et je les ai vus. Il a dit, pendant la période de la crise économique, mon fils ici présent était à la pharmacie. Il a dit, il était en train d'attendre comme un jeune homme. Il a dit, il s'était né là pour les médicaments. Il a dit, un homme est venu, il avait sa femme, une petite femme, elle était là. Vous pouvez le regarder, voir qu'elle était sur le point d'accoucher et tout le monde. Il a dit, il ne pouvait pas plus rester dans cette ligne. Alors, il a amené sa femme à la porte était juste appuyé sur son épaule. Il a dit, mon garçon est monté ici. Il a dit, puis-je vous aider? Il dit, voici la pression du médecin, mais je vais vous l'aider. Nous n'avons pas encore de l'argent et nous allons le recevoir du comté, mais sa femme ne peut pas tout simplement plus longtemps supporter plus longtemps. Le docteur a dit qu'elle doit prendre les médicaments tout de suite. Et si vous lui donnez les médicaments, j'irai là-bas faire quelque chose jusqu'à ce que je reçoive l'argent du comté. Il a dit, monsieur, je suis désolé, cela va à l'encontre de nos règles ici de donner des médicaments sans avoir l'argent. Vous savez comment le temps était en ces jours. Et je suis désolé pour elle, mais je ne peux le faire. Il a dit, j'étais assis là dans un train en train de lire le journal. J'ai levé les yeux, j'ai dit, quelque chose m'a étrangement brûlé le cœur. Il a dit, je me suis levé, j'ai dit, attendez une minute, attendez. Et l'homme allait passer le côté. Bon, d'abord, il passait le côté. Il a dit, qu'est-ce que c'était? Cet homme a dit, il a dit, laissez-moi voir la prescription. Attendez une minute et je vais trouver les médicaments. Il a dit, je suis allé derrière et préparer l'ordonnance que le médecin avait prescrit son homme. Et il a dit, je suis allé là-bas et j'avais cet argent. Il a dit, je lui ai dit, et je suis allé et j'avais cet argent. Il a dit, je lui ai donné, ne sachant pas si j'ai recouvré cela ou pas. Mais j'ai juste pensé que je les recouvrirais. Je pensais que je devais le faire. Il a dit, Billy, quand je suis ce médicament dans la main de cette femme, il a dit, c'était le Seigneur. Il a dit, c'était le Seigneur. Il a dit, j'ai vu un homme qui se tenait là. Et il a dit, j'ai lu plus tard que l'Écriture dit, ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et il a dit, et je le crois, je crois la même chose ici même dans que Jésus-Christ peut se manifester, se rendre lui-même parole faite chair parmi nous cet après-midi. Allez-vous le croire? Le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons faire l'appel des cartes de prière pour que les gens avancent. Nous ne pouvons pas en avoir beaucoup, car je pense que maintenant, si je regarde bien ma montre, il me reste 25 minutes. Maintenant, commençons par la carte de prière. Je crois que c'était A, n'est-ce pas? Commençons à partir de A1. Qui a la carte? La carte A, puis prière A1. Quelque part là dans le bâtiment, la carte. Qui a la carte A2? Voulez-vous lever la main? Pouvez-vous marcher? D'accord, venez ici, de ce côté-ci. 3. Si vous avez votre main, tout de suite, je vais vous voir. Nous ne devrions pas entendre. Carte de prière numéro 3. Voudriez-vous lever la main? D'accord, un homme là-bas. D'accord, venez ici, monsieur. Carte de prière 4. Voudriez-vous lever votre main rapidement? Aussi vite, carte de prière numéro 5. Numéro 5. Numéro 6. Numéro 7. Numéro 8. Numéro 9. 10. 10. Maintenant, 1, 2, 3. 11, 12, 13, 14. Êtes-vous en train de venir, monsieur? 14. 14. Ça sera suffisant maintenant, ça suffira pour cet après-midi parce que nous n'avons pas trop de temps. Maintenant, regardez, je veux que vous me donniez toute votre attention. Maintenant, Jésus a fait cette promesse que encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Croyez-vous cela? Le monde et l'ordre du monde, voyez-vous cela? Ils savaient qu'ils allaient continuer dans le monde de ce chemin et ils ne me verront plus. Mais vous me verrez. Car il a promis, je serai avec vous-même jusqu'à la fin du monde. C'est exact. Et la Bible dit, Hébreux 13, 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Croyez-vous cela? C'est une promesse. Maintenant, ce n'est pas nécessaire d'être ici pour être guéri. La seule chose à faire est de croire que la parole est la vérité. Maintenant, je vais vous demander si vous voulez d'être juste, révérencié, calme, pour quelques instants. Est-ce qu'ils sont tous venus, Billy? Vous avez deux qui sont sortis, trois. Que dites-vous? Carte numéro 3, carte de prière 3. Quel est le mot mexicain pour ça? Quelqu'un peut le dire? D'accord, 13. Ils l'ont sûrement, quoique celui qui a cette carte de prière vienne dans la ligne. Voulez-vous? Je pensais que c'était quelqu'un qui l'avait, il ne l'avait pas. Ils sont retournés. D'accord, maintenant qu'en est-il? Est-ce que tout le monde croit maintenant? Prions maintenant encore. Seigneur Jésus, nous réalisons maintenant que nous pouvons lire la parole au mieux de notre connaissance et l'expliquer. Mais le Seigneur, tu es le seul qui peut la confirmer. Tu es le seul qui peut dire si c'est vrai ou pas. Père, je prie aujourd'hui que tu laisseras les yeux des gens s'ouvrir. Puissions-nous voir un paradoxe cet après-midi, Seigneur, juste assez pour que les gens voient que tu es présent, que tu n'es pas imaginé, que ta parole est la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Car tu es cette parole pour le bien des malades, Seigneur, pour le bien de ceux qui souffrent. Beaucoup sont problèmes ici venant de différentes parties du pays, de certaines parties de la nation. Ils souffrent tellement, ils ne peuvent pas profiter des réunions, sinon s'ils n'étaient pas guéris. Je te prie que tu les guérisses. Accorde le Seigneur. Maintenant, nous ne sommes que des êtres humains physiques et nous ne pouvons que prêcher la parole et dire ce que tu dis être la vérité. Maintenant, tu es celui qui la manifeste. Je prie pour que tu l'accordes au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je voudrais juste avoir toute votre attention juste pour un moment. Si chacun peut juste rester assis maintenant pour quelques minutes. Pour autant que je sache, bien sûr, je ne connais personne que je puisse voir dans le bâtiment que je connais. Maintenant, vous n'avez pas à être ici pour être guéri. Tout le monde le sait. Il y avait une petite femme, une fois, qui ne pouvait pas l'obtenir du quart de prière, disons. Elle toucha son vêtement, il laissait retourner et a regardé. Qui m'a touché? Ils l'ont tous nié. Il a regardé autour de lui, a vu cette femme, petite femme. Elle ne pouvait pas se cacher, car l'Esprit de Dieu qui était en lui le conduisait. Il était la parole. Et cela l'a conduit droit vers elle. Et il a dit qu'elle était son... Elle avait une paire de sang. Elle fut guérie. Elle a cru. Maintenant, dans son corps, elle a senti que cette perte de sang avait cessé. Ça s'est arrêté. Maintenant, il existe dans le exactement le même aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé d'être ici. Maintenant, la Bible a dit que dans le Nouveau Testament, maintenant, que Jésus est notre souverain sacrificateur. Croyez-vous cela? Le seul souverain sacrificateur que nous avons, le seul intercesseur que nous avons entre Dieu et l'homme. Et l'homme, le Christ Jésus, croyez-vous? Et la Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Et c'est vrai? Levez la main. Maintenant, comment agirait-il si vous le touchez? Il agirait de la même manière qu'il avait fait quand il était ici, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et c'est vrai? Maintenant, croyez seulement, dites simplement maintenant, Seigneur, j'ai participé à des noms, mais je vais y croire aujourd'hui, je ne veux même pas prendre mes propres pensées, je veux juste croire de tout mon cœur que tu es ici. J'ai un besoin et je suis. Aide-moi, Seigneur. Maintenant, faites-le, Seigneur. Ne soyez pas nerveux, juste d'une foi sereine. Un don de foi n'est pas quelque chose que vous prenez, faites quelque chose avec. Un don de foi, c'est simplement se mettre hors de chemin. Le don, c'est de vous enlever du chemin. Maintenant, voici une femme debout. Le Père le sait. Elle m'est totalement étrangère, mais il n'y a que deux ou trois personnes que je peux voir là-bas que je connais. Je pense que celle-ci, madame, je connais ces trois, quatre personnes. Je crois que je connais frère Anthony Milano qui est assis là-bas de New York, frère Pat Tyler. En dehors de ça, je sais que Fred Sopman est là quelque part, je l'ai entendu crier Amen. Il y a un moment, c'est peut-être le Père Céleste. Et cette femme debout ici, je ne l'ai jamais vue. Je n'ai aucune idée de pourquoi elle est ici. C'est juste une femme venue ici sur l'estrade de même que vous assis là-bas. Maintenant, si cette femme est dans le besoin, eh bien alors, si je pouvais l'aider, je le ferais. Mais maintenant, cela dépend de ce dont elle a besoin. Si c'était l'argent, je pourrais réunir 5 ou 6 dollars. En dehors de ça, je ne sais pas, à moins que je lui donne un chèque pour jusqu'à ce que je reçoive mon salaire le mois prochain. Mais maintenant, et si elle a des ennuis domestiques, puis va chercher ton mari, parlons ensemble, peut-être que je peux vous aider. Je n'ai aucun moyen de rentrer chez moi. Eh bien, je demandais à quelqu'un votre. Quoi que ce soit, je ne sais pas, mais si c'est une maladie, alors je ne sais pas. Mais je ne connais pas. Mais il y a quelqu'un ici, cette parole, qui a promis Les choses que je fais, vous les ferez aussi. Mais il y a quelqu'un, si cette parole qui a promis les choses que je fais, vous... Mais peut-être que si cette femme est mal, peut-être qu'elle a un cancer, peut-être qu'elle a la tuberculose ou quelque chose que la médecine ne peut pas aider à ce niveau, eh bien maintenant, je ne pourrai pas. Maintenant, s'il peut me révéler ce qu'elle veut, juste comme il a fait avec la femme au puits, comme il a fait à Nathanaël, dis à Simon quel était son nom. Il a dit, tu t'appelles Simon, tu es fils de Jonas. Désormais, on t'appelle Pierre, ce qui signifie une petite pierre. Eh bien, s'il voulait faire quelque chose comme ça ici, en présence de vous, tout cela montrera que cette parole est la vérité. Combien vont le croire? Il y a quelqu'un ici qui connaît la femme, levez la main. Des gens dans le bâtiment. Et beaucoup d'entre vous le connaissent. D'accord, le Père sait que je ne la connais pas. Eh bien, voyons maintenant ce qu'il dirait. Ce serait un paradoxe. Je ne sais pas pourquoi c'est. Mais Dieu le connaît. Je vais parler à cette femme maintenant. C'est la première fois que j'ai devant moi depuis 3 mois. Maintenant, je veux juste parler à la dame, juste un instant. Qu'est-ce que... Contacter son esprit, juste comme Jésus avait fait avec la femme au puits. Contacter son esprit. Maintenant, si le Seigneur Jésus, madame, peut me révéler ce qui ne va pas avec vous, ou c'est pourquoi vous êtes ici, quelque chose que vous savez que je n'ai aucune idée, quelque chose dans cet ordre-là. Croyez-vous que c'était lui? Il faudrait que ce soit lui. Il faudrait que... Et s'il le fait, alors nous serons tous reconnaissants de savoir que nous sommes, que sa parole est juste, que nous pouvons mettre notre confiance en lui. Maintenant, s'il peut me révéler votre premier moi qui ne connaît pas, mais s'il peut me révéler votre premier quelque chose à votre cœur, cela montre qu'il y a un esprit ici quelque part qui vous connaît et que moi. Donc ce ne serait pas l'homme, ce serait l'esprit. Et que Dieu a promis à cet instant-ci d'Éphésiens. Je vois une chose, elle souffre de quelque chose comme un problème de sinus ici dans sa tête. C'est vrai, n'est-ce pas? Levez la main, mais le sinus ne vous ferait pas éternuer, réagir comme ça. Vous avez le rhume de foin aussi. C'est vrai, vous n'êtes pas de Phoenix. Vous venez là où il y a beaucoup de montagnes, d'arbres. Vous venez de Flagstaff, c'est vrai. Croyez-vous que Dieu peut me dire qui vous êtes? Vous êtes Madame Earl? Oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Maintenant, allez, croyant, tout sera fini. Maintenant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, le Père Céleste sait que je viens de voir la femme. Ouais, la parole confirmée. Maintenant, ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un homme. Tout comme ce micro, il est mieux si je ne parle pas ou quelqu'un d'autre. De même qu'un homme est simplement mieux. Mais c'est l'esprit. C'est cet esprit juste là parmi vous. Ouais, il est le guérisseur, pas moi. Comment allez-vous, monsieur? Un autre homme qui est une personne qui m'est étrangère. Je ne connais pas l'homme. Maintenant, autant que je le sache, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mais maintenant, l'Esprit, le Saint-Esprit et Jésus-Christ sont le même Esprit, le loin, Jésus, l'homme et le Fils de Dieu. Mais le Saint-Esprit qui était sur lui était Dieu. Mon Père habite en moi. Oui, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est toujours Dieu. Maintenant, si je peux juste m'enlever et que cet homme peut s'enlever du chemin, alors cette partie est morte. Et cela permet à l'esprit de vie de se mettre au travail. C'est pour ça que j'attends juste une minute pour voir ce qui se passe, jusqu'à ce que l'onction commence à agir. Si le Seigneur Dieu dans lequel nous sommes en présence veut me révéler, monsieur, quel est votre problème? Ou quelque chose que vous avez fait, ou quelque chose à propos de vous, juste quelque chose, bien sûr, que plus nous parlons, plus cela en dit. Mais voyez-vous, s'il y avait d'autres choses qui se tiennent dans la ligne, mais s'il me dit simplement quel est votre problème, croirez-vous que je suis son serviteur, croyez-vous qu'il est présent? Une rupture, est-ce juste? Maintenant, vous dites, cela a-t-il pu se faire? J'aimerais le savoir, personne ne peut expliquer cela. C'est un paradoxe, vous voyez. Et c'est pour que vous sachiez, j'ai vu autre chose, un examen. Il y a aussi un problème cardiaque. Levez la main. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Jésus-Christ vous guérit. C'est vrai. Croyez simplement. Ayez la foi, ne doutez pas. Comment allez-vous, monsieur? Nous sommes étrangers l'un à l'autre. Je ne vous connais pas. Pour autant que je sache, c'est la première fois que je vous vois, que je vous rencontre. C'est vrai. Mais lui connaît tout le monde. Vous savez pourquoi cela se passe? C'est sa grâce qui le permet, qui amène des personnes à prendre conscience de Dieu. Maintenant, ne sachant rien de vous, ne vous connaissant même pas d'aucune manière, juste un étranger qui est venu ici. Oh, il serait absolument paradoxal que quelque chose se produise et de savoir qui ne va pas avec vous, quelque chose que vous avez fait ou quelque chose que vous n'auriez pas dû faire ou quelque chose que vous auriez dû faire ou qui vous a dit quelque chose. Il faudrait qu'il y ait soit un paradoxe car il n'y a aucun moyen de savoir cela en dehors d'une révélation invisible. C'est vrai. Maintenant, il s'est fait ça pour vous, entre vous et moi. De sorte que l'auditoire, pas un spectateur, mais pour qu'il puisse voir que l'effet est ici. Et que c'est la chose qui relie la dénomination au pays de la gloire. Il a promis. Afin qu'il soit certain que ce que nous disions est la vérité. Maintenant, de vous connaître. Vous savez que non, levez la main pour que les gens voient. Moi, je n'ai jamais vu l'homme de ma vie. Il est juste un homme de Boussim. Demandez l'homme. Mais vous souffrez d'une rupture. Vous avez aussi des hémorroïdes, c'est vrai. Vous avez parcouru une longue distance pour venir jusqu'ici. Vous n'êtes pas même américain. Vous êtes canadien. Vous avez amené avec vous un fils qui a une maladie mentale. C'est vrai. Voulez-vous que je vous dise d'où vous venez? Vous venez de la province de Saskatchewan. Saskatoon, la ville. Croyez-vous de tout votre cœur que Dieu vous en renverra chez vous et rétablit avec votre fils si vous le croyez? Vous le croyez? Croyez-vous? Dieu bénisse. Le Seigneur Dieu reste toujours Dieu. Voyez-vous, il n'y en a d'autre que lui. Il n'y en a pas d'autre que lui. Comment allez-vous? Voici une dame qui m'est inconnue, peut-être un peu plus âgée. Je ne l'ai jamais vue, mais elle n'est qu'une femme qui se tient ici. Je vais voir, je vais me dépêcher parce qu'il ne reste que quelques 8 minutes maintenant. Vous voyez? Regardez ici. Croyez-vous que ces choses sont vraies? De tout votre cœur, vous savez qu'il est impossible que je sache ce qui ne va pas avec vous ou quoi que ce soit à votre sujet. Mais ce n'est pas impossible pour Dieu de le savoir, car il le savait avant même qu'il y ait un monde, n'est-ce pas vrai? Combien croient que c'est vrai? Eh bien, si il voit chaque fois que vous avez battu les yeux. Nous sommes dans cette phase en ce moment. Nous y sommes, sortant de l'un pour entrer dans l'autre. Vous avez tellement de problèmes, de complications, de problèmes. Vous n'êtes pas d'ici. Vous venez à l'ouest d'ici. Vous venez de Californie. C'est vrai. Vous avez également un fils qui est affligé. C'est vrai. Il y a quelque chose, je continue de voir de l'eau ou un grand lac, et c'est, vous avez un proche qui habite à Chicago et qui me connaît, c'est vrai, c'est la vérité. Maintenant, vous savez que je ne vous connais pas, mais croyez-vous que Dieu sait qui vous êtes? Madame Maguire, vous avez votre requête, rentrez chez vous en remerciant Dieu. Comment allez-vous? Vous êtes très jeune. Mais la maladie ne fait exception de personne, combien le savent. Nous savons bien qu'elle ne fait exception de personne. Si vous pouvez croire de tout votre cœur, de toute votre âme, Cet asthme vous quittera si vous le croyez de tout votre cœur. Le problème à la poitrine, croyez-vous que cela vous quittera aussi, ma sœur? Et que vous serez rétabli? Qu'avez-vous touché? Elle a 20 pieds de plus. Elle a touché le maître. C'est la congestion des nerfs. Vous irez bien. C'est une chose noble que cette jeune femme représente. Elle est une parfaite étrangère. Je n'ai jamais vu la femme. Mais elle a été ramenée ici par quelqu'un d'autre. Et ce qui l'amène ici, c'est parce qu'elle a entendu une bande que j'ai faite. Elle est ici à la recherche du baptême du Saint-Esprit. C'est exactement ce pourquoi elle est ici. C'est vrai, jeune femme. C'est vrai, venez ici. Cher Dieu, que cet enfant qui se tient ici, qui passe maintenant des ténèbres à la lumière, puisse-t-elle recevoir le Saint-Esprit, aller chez elle et ses bien-aimés, leur montrer les grandes choses que Jésus a faites pour elle. Amen. Que Dieu te bénisse, ne doute pas, crois. Dieu peut guérir toutes sortes de nervosités. Croyez-vous cela, des conditions asthmatiques et vous guérir? Croyez-vous cela? Alors allez, croyez-vous de tout votre cœur, que Dieu vous bénisse, frère. Quel âge avez-vous? Vous devez sortir de cette nervosité avant trop longtemps, n'est-ce pas? Vous avez toutes sortes de crises épuisantes, tout ce qui vous arrive, mais cela vous a quitté maintenant. Oui, monsieur. Dieu guérit aussi la nervosité et les problèmes d'amour. Croyez-vous cela? Alors allez manger tout ce que vous voulez. Jésus-Christ vous a guéri. Croyez-vous chacun de vous là? Il y a un homme assis avec une chemise, il me regarde. Oui, il a regardé sa chemise à l'instant. Oui. Croyez-vous que Dieu peut guérir les problèmes des glandes, qu'il peut vous guérir? Vous croyez-vous à l'instant, n'est-ce pas? Au même instant que cet esprit garçon a été guéri de cette maladie asthmatique, rentrez chez vous, chérie. Vous aussi, vous avez découvert la santé. Croyez-vous du tout? La petite dame assise à côté de votre dame, pourriez-vous croire que vos yeux vont recouvrir la santé aussi? Croyez-vous, Dieu guérira ces problèmes de yeux? Levez la main si c'est pour ça que vous priez, voyez? Qu'est-ce qu'ils ont touché? Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Croyez-vous? Jeune homme, Dieu peut guérir cette maladie du sang. Arrangez-le chez vous. Vous faites retirer ces choses. Vous avez le problème d'estomac. Croyez-vous que Dieu peut la guérir, le guérir? Guérir cela, le frère. Allez, croyez-le, vous irez bien. Vous serez guéri. Venez amener ce petit garçon, regarde votre siphon. Vous venez de loin, parfois, les changements d'altitude, les changements de climat sera suffisant pour guérir un problème d'asthmatique. Mais il y a une guérison certaine. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il a donné son Fils afin que les tiens puissent être guéris. Croyez-vous cela? Croyez-vous? Croyez-le de tout votre cœur. Et ça le guérit, le quittera. Il sera un homme. Que Dieu te bénisse. Croyez-vous que ce que ce Dieu fait encore de paradoxes inexplicables, contraires à la raison, des choses que les gens ne comprennent pas? Mais c'est toujours vrai, n'est-ce pas? Combien d'entre vous ressentent et savent que dans votre esprit, qu'il doit y avoir quelque chose qui dépasse la compréhension humaine? Maintenant, je pense que nous avons appelé au moins 15 personnes dans cette ligne, chacune d'entre elles, et 4 ou 5, 6 là-bas dans la ligne, sans quart de prière, ou peu importe s'ils étaient dans la ligne de prière ou dans l'auditoire ici, nous n'en sommes qu'à une minute de la fin. A-t-il fait cet amendement qu'il est? Combien de personnes croient qu'il est le même hier, aujourd'hui, tellement? Vous ressentez sa présence. Maintenant, vous avez vu sa présence. Maintenant, vos yeux ont vu, vos oreilles ont compris. Et Dieu a confirmé devant vos yeux sa présence. Et c'est ce que vous ressentez tout le temps. C'est ce qui vous condamne. Quand vous avez tort, vous dites de ne pas faire cela. C'est même Dieu est devenu visible pour vous ici cet après-midi, dans 16 heures. Combien disent amen à ça? Bien sûr, ça c'est là. Maintenant, il est ici. Y a-t-il une personne parmi nous qui n'est jamais était chrétien qui n'a jamais eu de confession, qui n'est juste jamais allé à l'église. Vous devez vous lever, dire, je veux me lever, non pas pour vous, ministre, mais je veux me lever pendant que je suis en présence de cette personne, Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit, qui est sur nous présentement. Je veux me lever, dire, je veux dire que je veux être chrétien. Levez-vous, puis rassiez-vous aussitôt. Y a-t-il une personne dans la salle? Y en a. Combien de personnes dans la salle voudraient se lever à ce moment même et dire, j'ai eu tort, Dieu, pardonne-moi, je vais me lever pour te témoigner ce que j'ai eu tort. Je vais m'asseoir pendant que je suis ici dans la salle. Je vais m'asseoir. Levez-vous partout. Y a-t-il une, plus d'une, une personne, que Dieu vous bénisse. Jeune homme, y a-t-il une autre personne? Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il un autre? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Y a-t-il que Dieu bénisse? Y a-t-il un autre? J'ai eu tort, Dieu. Pardonne-moi. Que Dieu vous bénisse, monsieur. J'ai eu tort. Je suis désolé, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il quelqu'un qui se méfie de ce ministère? Vous êtes convaincu maintenant que c'est vrai? Levez-vous et dites, Dieu, pardonne-moi. Levez simplement la main et dites, j'étais un peu méfiant, frère Branham. Tout est parti maintenant. Levez la main. Pas un seul, je vous demande. Je vous remercie. Combien croient cela? Ça ne peut pas être que moi. Mais c'est Christ. Ça ne peut pas être moi, mais c'est Christ. Le Fils de Dieu, merci. Alors que vous verrez de plus grandes choses que c'est le temps que vous le croyez. Restez en Christ. Maintenant, combien d'entre vous êtes malades dans le besoin? Disent que dans la main, je suis malade. Prions. Dieu, cher Dieu, je t'apporte ces petits auditoires cet après-midi où nous avons entendu et lu la parole de Dieu. Nous savons que c'est la vérité parce que c'est ta parole. Non seulement nous la croyons maintenant, mais nous savons que c'est la vérité. Nous t'avons vu, Seigneur, faire quelque chose qui fera savoir aux gens qu'il y a encore en plus d'être un paradoxe du monde, de l'espace et des lois naturelles de Dieu. Nous pouvons voir ici où la loi de la mort agit dans le corps, où cette science a échoué à guérir leurs recherches. Et Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ces gens. Nous ne voulons absolument pas les rabaisser. Nous leur en sommes reconnaissants. Mais Seigneur, quand il s'agit d'une situation où ils ne peuvent plus rien faire, nous voyons maintenant ta grande main entrer en scène, sachant qu'il n'y a aucun homme pour le guérir parce qu'il serait un médecin qu'il devrait prendre quelque chose, mais de voir descendre le Fils de Dieu. C'est ce qui nous a fait la promesse que nous croyons tous. Chaque personne qui n'était pas sauvée a levé la main, qui désirait être sauvée. Dieu, quelque chose a averti leur cœur. Certains d'entre eux ont dit qu'ils avaient tort, qu'ils avaient été rétrogrades, qu'ils voulaient revenir. Je prie que tu les ramènes tous, car ils savent, Seigneur, que beaucoup d'entre eux peuvent me connaître et avoir entendu parler de moi depuis des années. Ils savent qu'il n'y a rien de bon dans un homme, et spécialement en moi. Comment pourrait-il y avoir quoi que ce soit de bon? Maintenant, ils ont vu cette parole que Dieu a promise et rendue. Ils sont convaincus que c'est la vérité. Ils sont convaincus. Beaucoup n'ont pas pu venir ici sur la plateforme, Père. Tu es mon témoin. Jamais je n'ai dit que ce serait quelque chose que je pourrais faire. Pas plus que de me livrer à toi et te laisser m'enlever du chemin et y mettre ton esprit pour œuvrer. Maintenant, Père, voyant qu'une personne ne peut faire cela, les autres peuvent. Je prie chacun qui a levé la main les uns sur les autres, qui est malade, soit guéri maintenant. Oui. Maintenant, qu'il en soit ainsi, Seigneur, maintenant. Qu'il en soit ainsi maintenant, au nom du Seigneur, Seigneur. Alors, levons-nous là. Croyez-vous de tout votre cœur? Maintenant, je vais demander à Petit de nous donner une note là. Alors, chantons ensemble. Alors, nous allons officiellement vous terminer la réunion. Je vais que chanter. Je le louerai.
Let's raise your hands.
Levons nos mains. Je le louerai. Je louerai l'agneau meurtri. peuple le glorifie, car le sang, car son sang lave tous les péchés.